Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec la petite France de la critique Nelly Capriélian, des Inoccupables, Olivia de Lamberterie, Duel, Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de la revue Charles avec Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française pour parler ce soir de Ma Petite France, de Pierre Péan, mais également des romans de Sophie Oksanen, Philippe Djian, Éric Deluca et du journal de Mathieu Gallet, l'écrivain, hein, pas le patron de Radio France, dans le courrier de la semaine. À propos du polar d'Hervé Lecor, Arnaud, Prendre les loups pour des chiens chez Rivage, Victor Boiré signale à Arnaud Vivian qu'il fait erreur. Les 10 règles d'Elmore Leonhardt ne sont pas réservées au polar, mais à l'écriture d'un bon livre en général, se focalisant sur l'écriture et non pas sur les ressorts du suspense. En revanche, Borges a édicté quelques règles du roman policier dans son article « Loi de la narration policière », dont je recommande l'excellente explication de Guillermo Martinez. Toujours à propos du même polar d'Hervé Lecor, Olivier Patureau tient à souligner, ça c'est très important, la mauvaise foi de Jean-Louis Hésine, puisque page 11, il n'est pas écrit une espèce d'abrébus, mais l'espèce d'abrébus, ce qui évidemment change tout. Martine Lafont Bayou, qui habite la Gironde, défend la raison, la vie mécanique de Christian Oster. Les critiques négatives au masque que j'ai entendues m'ont paru imméritées. Quoi, il faut désormais un scénario à rebondissement et de l'action pour soutenir l'attention du lecteur. Pourquoi ne pas prendre son temps, débrancher tous les appareils, fermer portes et fenêtres et laisser conduire Oster. Le lecteur a de la place. Oster l'invite à partager sa route sans bavardage, d'égal à égal. Jean-Philippe Potier est en colère contre Philippe Claudel, qui publie Inhumaine, dont le masque a fait l'éloge. Philippe Claudel est un illusionniste, ses livres ne sont même pas superficiels, ils sont creux. L'artistiquement correct lui colle à la peau, même quand il raconte des histoires de cul et d'infanticide. Je vous aime bien quand même, mais je préfère me replonger dans Joyce. Enfin, Gilles Demtos, qui habite Singapour, me remercie d'avoir conseillé Le chemin de Mako de Jean-Marie Plane aux éditions Arléa, un livre touchant, subtil et précieux. L'ayant achevé à Singapour, où je vis depuis près de 10 ans, et ne voulant pas m'éloigner, littérairement parlant, des rives de la Garonne, je décidai de relire les lettres persanes de Montesquieu, jouissif de bout en bout, et puis j'y tombe, notamment sur ce passage. Il faut dire que c'est un régal, de point ouvrir les guillemets, écoute bien Michel. Montesquieu donc, oserais-je le dire, le plus grand mal que fait un ministre sans probité n'est pas de desservir son prince et de ruiner son peuple. Il y en a un autre mille fois plus dangereux, c'est le mauvais exemple qu'il donne. C'est ainsi, ajoute Gilles Demtos de Singapour, que du chemin de Mako, on passe à celui de la Brède pour se retrouver sur la route de l'Élysée. Et on commence avec La nature exposée, qui est un bref roman du grand écrivain italien et grand militant altermondialiste Éric Deluca, qui est traduit chez Gallimard par Daniel Valin. Je rappelle à nos auditeurs que pour s'être opposé à la construction du TGV Lyon-Turin, il a été jugé pour incitation au sabotage et finalement relaxé. C'était en 2015. Bref, rien à voir avec ce livre, dont le narrateur est un sculpteur, doublé d'un passeur qui, dans un village au pied de la montagne, aide les clandestins, les réfugiés, à franchir la frontière sans jamais demander à être payé. Alors bientôt, il est repéré, poursuivi par les médias et quitte le village pour s'installer en bord de mer où un curé va lui demander de restaurer la statue en marbre d'un Christ en croix ou plus précisément d'en retirer le drapé. D'où la question fondamentale de ce bref livre, comment montrer la nudité de Jésus, comment exposer la nature, c'est le titre du livre, du Fils de Dieu. C'est en fait à la fois érotico-théologique, si je devais résumer ce livre, non ?
C'est mystique.
Mais mystique, mais aussi érotique, d'une certaine manière.
Ça marche souvent ensemble.
Oui,
d'ailleurs. Non, mais ça, c'est toujours des pratiques personnelles, mais là, dans le livre, Les deux sont forcément liés. Alors, qui veut en parler, Nelly?
Bah, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé ce texte, alors qu'au début, je me disais, mais où il va? Parce qu'il commence, en effet, par cette histoire de...
Le clandestin.
De réfugiés. Alors,
plus
lui,
attendu.
Éric Deluca n'aime pas du tout le mot migrant, donc les réfugiés. Je me disais, ça va être ancré dans l'actualité. Comme on sait qu'il est très à gauche, je me suis dit, voilà, il va en profiter pour parler des réfugiés.
C'était à l'heure.
Et puis, finalement, ça part complètement. Et je trouve que c'est un objet totalement étrange, quoi, qui est à la fois philosophique, mystique, complètement romanesque aussi, qui est extrêmement lent, qui se passe quasiment toujours dans la tête de ce sculpteur. Et il y a comme ça une espèce d'étude de l'absence. J'aime beaucoup, il parle à un moment donné de la lettre qu'a écrit le sculpteur qui a à la base sculpté ce Christ, avant qu'il ne soit recouvert, je crois dans les années 20, d'une sorte de petit pagne pour cacher son sexe, qui en plus est plus ou moins en érection, donc je pense que Jérôme, c'est là la partie érotique.
Absolument,
voilà. Un début d'érection.
Et la lettre est très belle parce que ce type a été mourir en montagne, en fait, s'est laissé mourir en montagne, et avant il avait écrit une lettre en disant « Je suis l'inévitable absent ». Et je trouve que tout ce livre tourne autour de l'absence, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque ? Est-ce qu'il manque Jésus aujourd'hui ? Est-ce que les hommes manquent de compassion ? Parce que au début du livre, il est avec... associé avec deux autres acolytes montagnards passeurs qui, eux, se font payer. Et ce sculpteur, en fait, prend d'abord l'argent des réfugiés. Une fois qu'il les a fait traverser la frontière, à travers la montagne, il leur rend l'argent à chaque fois. D'où le scandale qui va exploser, il va devoir partir. Et en fait, il y a une espèce... Enfin, ce que j'aime, c'est que l'objet est tellement bizarre, enfin, le livre est tellement bizarre, que finalement, ça ne sombre jamais dans le didactisme. C'est jamais, je vais vous faire une leçon de compassion.
Et puis ça pose une question
c'est
qui...
C'est effleuré tout le temps.
Qui n'a, pour moi, encore jamais été évoqué dans un roman. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met sous ce drapé et faut-il le montrer ou pas ? C'est tout à fait
inédit. Mais
c'est
ce qui manque. C'est-à-dire que pour lui, il faut le montrer.
Absolument.
À un moment donné.
Alors, Arnaud ?
Oui, c'est un livre qui fait quoi ? 140 pages ?
Très court.
165.
Petit format, en plus.
Et on est obligé de le lire très lentement, comme une espèce d'alcool fort. Il y a une espèce de liqueur romanesque absolument incroyable. Une dérive aussi, le livre n'arrête pas de dériver, de partir, il est à la montagne, il part ensuite à Naples, il y a un passage sur Naples qui est absolument merveilleux, il est à la mer. Alors, c'est un grand lecteur de la Bible, Éric Deluca. Il l'a dit dans des interviews, il passe 2 ou 3 heures chaque matin à lire la Bible. On voit qu'il connaît très très bien ces textes religieux. Et d'ailleurs,
comme quoi c'est pas incompatible avec l'altermondialisme.
Non, pas du tout. Et c'est un livre qui d'ailleurs se débrouille, on peut vraiment le dire comme ça, pour faire en sorte que les trois grands monothéismes apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a un ouvrier musulman qui va lui donner ce morceau de marbre qui lui manque, justement, en lui disant « fais un chef-d'œuvre ». Car il y a l'idée aussi du chef-d'œuvre totalement dans le livre. Hein. C'est peut-être la seule restriction que j'y mettrais à la beauté de ce livre, c'est que Éric Deluca sent qu'il est en train d'écrire son chef-d'œuvre et qu'il raconte l'histoire de quelqu'un
écrit,
qui va faire
ce d'autres très beaux livres. Hein.
Oui, non, mais celui-là, je pense, et je crois à juste titre, parce que on peut le prendre dans tous les sens, il pose d'infinies questions. Vraiment, le thème de la circoncision, parce qu'il va quand même jusqu'à se faire circoncire donc c'est un sexagénaire, une circoncision au laser, tout ça est très, très bien raconté. Hein. Il raconte que maintenant, une circoncision, ça se fait au laser. Et à 60 ans, c'est quand même un petit peu pénible. Hein. D'ailleurs, tout ça est raconté avec une drôlerie aussi, parce qu'il a une histoire d'amour qui va devenir une histoire, une espèce de polar, tout ça, en 140 pages. On n'y comprend d'ailleurs pas grand chose à cette histoire de polar, hein, je sais pas si voilà, mais en même temps on suit ça fasciné parce que on sent qu'il y a un mélange effectivement d'héros et de religieux. Vraiment, c'est un livre étonnant, mais comment dire, on peut le dire assez miraculeux.
Olivia.
Oui, et Dieu sait que je n'avais pas du tout envie de le lire, parce que c'est à peu près le contraire d'un page-turner. Au début, il faut un peu se forcer, et je trouve qu'on est vraiment énormément payé en retour, et la fin est très très belle. Ce qu'il dit sur les clandestins, j'ai trouvé, est très belle. Il échappe à tous les clichés et il raconte, mais en très très peu de mots, tout est dans une économie de moyens, une époque où on a inventé des nouvelles façons de mourir. Alors ça peut être dans le compartiment du train d'atterrissage d'un avion ou alors étouffé dans un camion qu'on a laissé au soleil. Et puis il y a quelques pages sur les clandestins, il y en a un avec qui il a un dialogue et qui lui dit qu'il apprend à être transparent, que la seule façon d'être accepté, c'est de baisser les yeux et de se taire. Et honnêtement, moi, j'ai eu quelques frissons. Et après, tout ce qu'il dit sur la représentation du sacré, parce que, après, c'est un livre sûrement mystique, mais qui parle vraiment beaucoup de notre époque. Et moi, je pensais aussi beaucoup aux gars de Charlie Hebdo qui ont été assassinés. C'est comment est-ce qu'on peut représenter le sacré? Et est-ce qu'on peut représenter effectivement le Christ avec un début d'érection? Et ce qui est intéressant, c'est que ce garçon, cet homme de 60 ans, qui est complètement détaché du monde, qui dit qu'il est plus proche d'une ombre que d'un homme, comment il va se prendre de passion pour ce travail? L'idée, d'abord, que des sculpteurs, après la guerre, en hommage au corps des jeunes hommes dévastés, aient eu l'idée de représenter le Christ nu, je trouve, est une idée très forte et très belle. Et à la fin, c'est vraiment un livre sur comment est-ce qu'on peut ressusciter un absent.
Michel.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nelly tout à l'heure, au début, quand elle parlait un peu de l'étrangeté de ce livre, enfin, qui...
Même le titre, d'ailleurs, qui défie oui. quand même la lecture, vraiment, la nature exposée.
C'est une sorte d'objet polyphonique qui rayonne dans toutes sortes de directions qui n'ont pas véritablement de rapport entre elles, d'ailleurs. Au début, j'étais complètement perdu entre cette histoire de passeur et tout à coup ces considérations esthétiques. Enfin, et il y a une chose que je trouve finalement, que je retire de la lecture, c'est que Eric De Luca a réussi, en un sens, c'est une sorte de tour de force d'avoir réussi ce que font depuis longtemps les historiens d'art, mais les historiens d'art, ils sont dans leur travail, donc on ne voit pas finalement ce qu'ils nous montrent, alors que là, il arrive à rendre extraordinairement concret quelque chose qui imprègne la culture occidentale depuis 2000 ans. La crucifixion est dans toutes les pièces, les églises. Enfin, il y a un nombre absolument invraisemblable de crucifixions qui sont qui imprègnent notre champ visuel depuis des siècles. Et ce petit livre de rien du tout arrive à toucher du doigt, si je puis dire, cette réalité de la crucifixion, du corps masculin dans ce qu'il peut avoir de plus concret, vraiment de plus physique, me paraît quelque chose vraiment d'assez étonnant.
La nature exposée, c'est donc le roman, bref roman, de Eric De Luca, et c'est chez Gallimard. 7 ans après Purge, qui a été un énorme succès, plus de 400 000 exemplaires vendus en France, et qui lui a valu le prix Femina, c'était en 2010. La jeune Finlandaise Sophie Oksanen, qui a toujours... j'ai vu sur les photos qu'elle n'avait pas changé son look gothique avec ses mèches multicolores, publie son 5e roman Norma, traduit chez Stock par Sébastien Cagnoli, et déjà, paraît-il, en cours de traduction dans 26 pays. Norma, c'est Norma Ross, une jeune femme affligée d'une maladie étrange. Son extrême émotivité, comme Michel, provoque chez elle une pousse hyperbolique des cheveux. Mais c'est plusieurs mètres par jour. Ce qui contraint Norma à se couper les cheveux plusieurs fois par jour. Le plus drôle, enfin, c'est que sa mère, Anita, travaille chez Magie Coiffure, qui est un salon où on pratique l'extension capillaire. Alors, le moins drôle, c'est qu'Anita est retrouvée morte sur les rails du métro d'Helsinki. Et Norma, donc, va mener une enquête pour essayer de comprendre ce qui ressemble à un suicide, mais qui pourrait aussi être un crime. Un livre qui oscille donc entre le conte et le thriller féministe, qui rompt un peu pour moi avec les romans précédents de Sophie Oksanen. Et au passage, moi j'ai appris beaucoup de choses sur les chevelures féminines, les extensions ukrainiennes, que je ne connaissais pas. À elle, vous connaissez ça, les extensions ukrainiennes.
Regarde-moi.
Et puis aussi Elisabeth Sidal, fameux modèle des pré-raphaélites, dont les cheveux roux auraient continué à pousser dans son cercueil. Je ne vais pas vous demander, évidemment, de ne pas couper les cheveux en quatre, mais de me dire ce que vous pensez de Norma Arnaud.
Couper les cheveux en date ou capillotracté, c'est pas mal non plus pour ce genre de livre. C'est-à-dire que là, pour imaginer une fille dont les cheveux poussent comme ça, ça me fait penser au Dupont et Dupont, non, je sais plus quel album de Tintin.
Oui, c'est vrai.
Exactement ça.
Hein, c'est comme ça.
C'est le pays de l'or noir.
À partir du moment où j'ai commencé à penser à ça, c'était vachement dur de continuer à lire sérieusement
ce livre. D'autant que c'est un gros roman, contrairement au...
Et dont la mère, donc, travaille dans les extensions de cheveux. C'est-à-dire que là, faut quand même en fumer de la très bonne pour avoir une idée pareille, hein, quand même. La fille qui a les cheveux qui poussent et sa mère qui travaille dans les extensions ukrainiennes. Là, vous voyez, vous dites... Et alors, ce qui est étrange, mais enfin, je comprends à peu près, hein, j'essaye de comprendre le succès de cette demoiselle estonienne, c'est ça?
Donc, finlandaise.
Finlandaise, oui. Non, mais alors, ce qui est étonnant, c'est
tout,
parce
hein,
qu'on lit ça, il y a plein de noms, effectivement, très finlandais, hein, une espèce de... On bascule dans un autre monde, hein, c'est une espèce de... Les noms de villes, on est... Et soudainement...
Ah oui, c'est la Finlande.
Le méchant, qui est alors... qui est quand même... une caricature de méchant, donc, s'appelle Lambert. Alors, je me suis dit, c'est bizarre. Alors, pourquoi il a, parce que Lambert, c'est pas très finnois, quand même.
Non.
Non. Il n'y a aucune explication. Le gars s'appelle Lambert. Et donc, c'est le méchant. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils ont un truc contre les Français, je sais pas, en Finlande. Pourquoi le méchant s'appelle Lambert en Finlande? On n'y comprend strictement rien. D'ailleurs, je n'ai absolument, rien compris à ce livre. Non. Rien. Je n'ai pas compris. Simplement, la raison pour laquelle, je crois, on s'en tiche un petit peu de Oksanen, c'est que elle nous montre une chose finalement, c'est que l'Europe, c'est partout la même. Elle décrit une ville en Finlande, on voit des bobos qui passent avec des boussoles, une description assez voilà, et on se dit mais en fait, c'est comment dire, ce que montrent ces romans qui sont idées hein, d'ailleurs pour les traductions, etc. Il y a tout un truc comme ça de d'échanges. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'Europe. C'est comme ça qu'on fait l'Europe.
Oh, mais t'exagères un peu. Elle a une singularité.
C'est une construction et qui vise à nous montrer que nous vivons dans un espace européen. En soi, c'est bien. Mais c'est vraiment la seule chose à retenir de ce livre minable.
Oh, minable, non.
Oh, non. Le roman n'est pas du tout minable. Il est à moitié réussi. C'est nettement moins bien que Purge, qui était vraiment,
je trouve, une purge.
Non, c'était un roman très puissant.
Bon titre.
Et passionnant. Là, c'est un conte. Et le conte est un peu foutraque. Ah, voilà. On comprend pas tout. Il y a beaucoup de monde.
Ah, t'es d'accord quand même.
Je suis d'accord avec vous. Le thriller est un peu boiteux.
Téléphoné, parfois.
Mais
du boiteux téléphoné, c'est dur.
C'est une sorte de roman à tiroir parce que ce qu'elle dit derrière ce conte, donc cette fille qui a les cheveux qui poussent un peu comme réponse dans le film de Disney ou comme cette héroïne, elle cache un vrai sujet sur le cheveu aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Il y avait la guerre du feu, c'est la guerre du cheveu. Pourquoi? D'abord, tout le monde est obsédé par ses cheveux aujourd'hui.
Elle a l'air très informée.
Mais bien sûr qu'elle est informée. Je me souviens qu'à elle, on a fait un grand papier sur le trafic du cheveu dans le monde. Et c'est un truc dingue.
Et donc, c'est vrai l'histoire ukrainienne?
Mais bien sûr que c'est vrai. C'est ça qui est intéressant.
La filière ukrainienne est vraie.
Il y a des filières. Elle raconte qu'au Venezuela, il y a certains villages où les femmes doivent mettre un fichu parce que sinon, on vient leur couper leurs cheveux tellement il y a un trafic de cheveux. Cette page t'a échappé,
alors,
Jérôme.
À leur insu.
Et il y a aujourd'hui, dans le monde, un trafic de cheveux qui est ce qu'elle dénonce.
Mais je vais mettre un bonnet.
Mais bien sûr. Mais c'est ça qui est passionnant. Comme il y a un trafic d'organes, comme il y a un trafic d'utérus, comme on vend les utérus. Ouais. Et je trouve que derrière ce conte, à moitié réussi, je le répète, se cache un roman très intéressant et très féministe sur la manière dont sont instrumentalisées les femmes.
C'est que les cheveux des femmes, c'est pas les cheveux des hommes.
Non, c'est les cheveux des femmes. Et c'est intéressant parce qu'une des filles les plus intéressantes aujourd'hui, qui est Chimamanda Ngozi Adichie, l'année dernière, elle a écrit un très grand roman qui s'appelait Americana et qui commençait où? Dans un salon de coiffure, où elle expliquait que le cheveu des femmes aujourd'hui était devenu politique, et notamment pour toutes les Afro-Américaines qui étaient obligées de se lisser les cheveux pour rentrer dans le rang. Elle avait même une phrase, elle disait que si Michelle Obama avait eu une coiffure afro, son mari n'aurait jamais été élu président des États-Unis. Et oui. Donc, moi, je trouve que le sujet qu'elle développe est intéressant parce que c'est encore une manière...
On se croirait au téléphone sonne, là.
Elle a un côté féministe, elle est très... C'est une femme engagée dans son époque. Et elle touche un sujet qui est peu raconté,
alors on peut dire,
mais
parce
qui
que
est intéressant.
On peut dire que dans le livre, peut-être c'est l'aspect... pour le coup, polar, qui est pas le plus réussi. Quoi.
C'est ce que je dis. Le polar marche pas très bien. Il y a des escrocs, effectivement. On Lambert,
ça y est, vous y venez lentement, mais bon. Mais c'est intéressant, une histoire de cheveux.
Je trouve que ce qu'elle raconte, au-delà du polar foutraque, est très intéressant. Et le cheveu est politique. Tout le monde est obsédé par ses cheveux. Je vous rappelle que même le président de la République française, François Hollande, dépense 10 000 euros en coiffeur chaque mois. Ce qui prouve que tout le monde est obsédé chaque mois.
Enfin, ça va bientôt s'arrêter.
Peut-être, mais le monde entier est obsédé par ses cheveux, ne l'oubliez pas.
Michel,
c'est la phrase.
Je vais être très franc avec vous, je n'ai pas lu le livre. Je me suis trompé dans ma liste. J'ai lu des nouvelles de Murakami. Je peux vous en dire un mot, si vous voulez, des nouvelles de Murakami. J'ai trouvé formidable. Je me suis trompé.
T'as des problèmes avec tes mails, hein? Enfin,
Mais non, je reçois toujours très bien.
Et... J'ai piraté, là, maintenant, après ces histoires, là.
Et donc, ça a l'air très intéressant, hein, cette histoire. Je vais m'acheter un bonnet, même si c'est les femmes qui sont uniquement concernées.
Bon, Nelly.
Écoute, on commence à en avoir marre de Sophie Oksanen.
Bon, on commence.
Non, mais c'est surfait. Moi, déjà, des purges, j'ai pas compris. Je comprends pas son succès. C'était une espèce de structure binaire qui se répétait comme ça, de chapitre en chapitre. Enfin, je trouve que c'est un peu la littérature pour les nuls. Alors, je suis d'accord avec Olivia, parce que c'est un bon sujet, cette exploitation des femmes par les cheveux, par la racine.
C'est un sujet, quoi.
Par
c'est
le scalp. Sujet. Non, c'est un bon sujet. Mais je me dis, bon, moi, elle aurait peut-être dû en faire un essai, ça m'aurait plus intéressé, ça m'intéresserait de lire un essai sur la question. Mais alors, le roman, je trouve qu'il n'y a pas de littérature dedans. Il faudrait inventer à un moment donné une espèce de bandeau qu'on mettrait sur les livres avec le pourcentage littéraire. Là, c'est quand même 0,2% de littérature. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot. Pourquoi ? Alors ça, c'est intéressant aussi, les répétitions de ce qui obsède les soi-disant écrivains qui pensent que ça fait littéraire. Elle nous donne son... Alors, chez elle, tous ces personnages qui sont angoissés transpirent des mains. Mais tout le temps, tout le temps. Non mais, enfin, il y a même pas d'éditeur.
Il y a un trafic peut-être de transpiration des mains, on sait pas. Ça peut aller loin.
Il y a un problème politique. La main tu as raison, de la glande, des doigts.
La sueur se vend au litre.
Non mais c'est quand même très chiant, ce livre. Moi, j'ai pas pu, vraiment. Quoi.
Bon, bah, entre celui qui le lit pas, les... Oui, enfin ça, on en parlera après. Hein. Norma, donc, c'est Sophie Oksanen, enfin, ce qu'il en reste. Marlène, chez Gallimard, le nouveau roman, j'allais dire le roman annuel, je crois que c'est presque annuel maintenant.
Oui, annuel, on peut le dire.
Hein, de Philippe Dian.
C'est comme l'almanach des postes.
Et c'est un peu le syndrome Amélie Nothomb, hein, maintenant.
Oui, un peu.
Sauf que lui, c'est toujours au printemps. Dian, dont l'adaptation, vous le savez, sous le titre L de son roman O, par Paul Verhoeven, a eu un succès énorme et a été consacré tout récemment au César. Et dans Marlène, eh bien, Dian raconte le retour dans une ville qui n'est jamais nommée, bon, dont on comprend qu'elle est américaine, de deux amis d'enfance et vétérans de l'Afghanistan, Dan et Richard. Si Dan organise son retour à une vie normale et même banale, Richard est plus perturbé quand même, plus bagarreur, et il part carrément en vrille sous l'empire des drogues et de l'alcool. Et c'est chez Dan que viennent souvent se réfugier la femme de Richard, qui est Nat, et leur ado de fille, c'est Mona, et débarque la Marlène du titre, qui est la sœur cadette de Nat, qui est une fille enceinte, mal attifée, à qui Dan n'est pas indifférent. Alors, si ça, vous m'avez pas suivi, c'est pas grave. C'était pas un résumé fait pour être suivi, mais pour montrer que, comme toujours, Dian, il s'intéresse beaucoup plus aux histoires qu'à la psychologie. Et j'ai le sentiment, sans vraiment me tromper beaucoup, je crois, que déjà, il y a presque un film qui se dessine dans ce Marlène. Celui-là, tu l'as lu?
Je l'ai lu. Je sais pas très bien ce que j'en pense. J'ai trouvé que c'est... Enfin, comme toujours avec Dian, on a l'impression que c'est traduit de l'américain.
Oui.
C'est...
Plus celui-là que les autres, je trouve.
Peut-être plus celui-là que les autres. Je constate aussi une chose que j'ai déjà toujours constatée chez lui, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire professionnel romanesque incontestable. Il y a un balancement, les positions alternent. On a presque l'impression d'une sorte de danse narrative entre les personnages et ce qui se passe. Est-ce que j'ai été pris par cette histoire? La réponse est non. La réponse est clairement non. Mais pour moi, c'est un peu un objet paradoxal parce que j'ai, en même temps que je ne m'intéressais pas vraiment à cette histoire, j'étais assez séduit par ce savoir-faire, cette espèce de danse. C'est très alterné, c'est très bien fait, vraiment très très bien fait. Mais ça ne m'a pas intéressé.
Qu'en pense Olivia?
Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu devenu le Woody Allen de la littérature française, Philippe Dian, un livre par an.
En plus chaud.
En plus chaud, mais alors on y va toujours avec enthousiasme, mais on en sort un peu déçu. Et on a envie de lui dire, Philippe Dian, c'est pas grave si vous en faites pas un cette année, on vous en voudra pas. Parce que là, les premières 30 premières pages, on retrouve ce qu'on aime chez Dian, c'est-à-dire une énergie, une écriture...
Un sens de la
réalité. Des images,
c'est
très visuel.
Et puis un vrai sujet, comment des vétérans. Et ce que j'aime bien chez Dian, c'est qu'on ne sait pas où c'est, un petit peu sûrement aux États-Unis. Oui. On ne sait même pas de quelle guerre ils viennent, est-ce que c'est l'Afghanistan. Et du coup, ça empêche.
Il n'y a pas d'incarnation.
Il n'y a pas de documentation qui alourdit le propos. Donc tout ça, c'est vraiment bien. Et puis ce sujet, comment ces hommes qui ont vécu la mort, qui aujourd'hui se retrouvent à aller fleurir des tombes, à prendre des médicaments et à faire peur à leurs femmes et à leurs enfants tellement ils sont devenus sombres, qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver comme vie normale? Il y a un vrai sujet. En plus, il y a un vrai personnage de femme, un peu comme la Betty Blue de 37.2.
Tu parles de Marlène ou tu parles de...
De Marlène, oui, de Marlène, une sorte de femme fatale dont on sent bien que la seule bonne idée qu'elle pourrait avoir, c'est de fiche le camp le plus vite possible. Donc tout ça, on est vraiment content de retrouver ça. Et puis après, ça s'effiloche. La nonchalance devient un peu paresseuse, il faut le dire. Il y a des mots qui sont jetés comme ça, un peu bizarres comme titre de chapitre. Et puis ça devient très sentimental et un peu psychologisant, alors que justement, ce qu'on aime oui. chez...
Enfin, c'est limite, hein, la psychologie,
oui.
c'est pas...
Moi, ça m'a fait le même effet. Moi, j'avais beaucoup aimé O, et j'ai détesté le film, Elle, que j'ai trouvé nul, parce que j'ai trouvé que, justement, ce qui était bien chez Jian, c'était la langue. Et la langue...
T'as pas trouvé Isabelle Huppert formidable dans...
Non, j'ai trouvé qu'on dirait qu'elle sort tout le temps du bon marché, tellement elle est bien habillée.
Non, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre.
J'ai trouvé que c'était pas bien du tout.
C'est un chef-d'œuvre, mais ça n'a rien à voir avec le livre, en fait.
Pas du tout aimé.
Il faut...
Et là, je trouve que ce qu'on aime chez Jian, c'est-à-dire cette langue qui vous décile et qui vous donne à voir quelque chose que vous n'aviez pas prévu, eh bien, elle n'est plus là. J'aime beaucoup ta formule, Nelly, qui dit « Quel est le degré de littérature dans les livres ?» Eh bien, là, on est un peu tombé.
Alors,
et...
Nelly, quel est le degré de littérature dans Marlène ?
Moi, j'aime toujours Jian, quoi. Même si je trouve qu'en effet, peut-être qu'il écrit peut-être trop souvent. Enfin, un parent, au bout d'un moment, c'est vrai, comme disait Olivia, il n'a peut-être pas besoin. Ben,
celui-là, on a le sentiment qu'il l'écrit quand même plus vite que les précédents.
Plus vite que les précédents. Alors, en même temps,
il y a des phrases.
Il y a une forme d'efficacité aussi, en tout cas dans la moitié du livre, qui fait qu'on est un peu pris avec cette écriture qui pulse, qui est assez nerveuse, qui est assez. Froide aussi, quoi. Il y a une forme de froideur qui, moi, m'a gênée pour la fin, notamment. Alors, évidemment, on ne va pas raconter la fin, je vois que Jérôme me regarde avec angoisse. Mais bon, disons que ça ne va pas vers Rire et Chanson. Ça va vers autre chose.
C'est pas ce qu'on attend, non plus.
Mais justement, on n'y croit pas, cette autre chose, je trouve. La partie dramatique, moi, je n'ai pas réussi ni à avoir de l'empathie. Plus j'avais plus d'empathie pour les personnages, j'y croyais pas. Mais j'adore, comme disait Olivia, le fait qu'il montre vraiment, on est dans la vie quotidienne de militaires qui reviennent de l'Afghanistan et comment on vit. Ça, je trouve que ça ne se fait pas vraiment, et peut-être pas assez dans la littérature française.
Ce qui a été beaucoup raconté et montré au cinéma. Hein.
Ah bah peut-être au cinéma, écoute, moi j'ai pas le temps d'aller au cinéma. Je lis des livres, donc j'étais contente qu'un livre...
J'ai pas le temps d'aller au cinéma.
Qu'un livre... Non, je ne vois que des DVD à 23h. Après 10 heures de lecture, Jérôme.
Mais enfin...
J'ai adoré le personnage de Marlène, qui est une espèce de, qui est une femme fatale, mais un peu malgré elle, parce qu'elle est un peu bécasse, elle est un peu simple, quoi. Elle arrive, elle est enceinte, en même temps elle va se taper tous les frères, en même temps elle est amoureuse de l'un pas de l'autre, en même temps elle, c'est Marlène.
Ouais, mais c'est une femme à lunettes. Et ça
non mais
ça
j'adore Marlène.
Finalement on retombe dans les chansons là sur la droite.
C'est quoi ta théorie?
Non, rien. Comme elle est juste caractérisée par sa paire de lunettes, c'est
elle
ça.
Casse.
C'est l'accessoire de Marlène.
Et pour finir, je dirais que j'en revenais à ce que les écrivains répètent beaucoup et des fois on se demande pourquoi. Par exemple, donc Sophie Oksanen, c'était les mains qui transpirent dès que les gens sont un peu angoissés. Et là, je ne comprends pas pourquoi Philippe Jian. Alors peut-être c'est fait exprès, mais là ça m'a. Je n'ai pas compris pourquoi il éprouve le besoin de donner le bulletin météo. Toutes les pages. Mais toutes les pages, on a le temps qu'il fait sur au moins 5 lignes.
Il l'a toujours fait, ça on peut pas dire.
Mais là, c'est un festival.
Depuis 37 le matin,
il a fait 30 livres
où il décrit la météo.
Bon, Arnaud.
J'ai le sentiment quand même qu'on l'a un peu perdu, Philippe Jian. Parce que là, de toute évidence, à la manière dont c'est écrit, par une forme de découpage, avec des scènes, avec un titre très simple pour chaque scène, etc., on voit qu'il écrit plus pour nous, les lecteurs. Il écrit directement pour l'agent. C'est quasiment un scénario clé en main.
J'ai trouvé avec... Absolument, c'est plus scénarisé que les autres.
Voilà, il est plus scénarisé que les autres, comme si... À la fois, pas simplement l'adaptation par Verhoeven, que moi je trouve un chef-d'œuvre par ailleurs, mais même l'adaptation des Frères Larieux était pas mal. Hein. Vous vous souvenez du film des Frères Larieux? C'était pas si mal, c'était un grand film sur la cigarette, sur arrêter de fumer, l'air pur, des montagnes, et tout ça, c'était... Les Larieux avaient bien pigé le truc. Celui-là, je le trouve un peu faible. Hein. Le truc avec Lost Highway, David Lynch, tout ça, c'est bien, bien lourdingue. On a envie de lui dire quand même... Et le dernier, l'avant-dernier était pas bon non plus. Celui d'avant, Chéri Chéri, avait un début extraordinaire. C'était l'histoire d'un critique littéraire qui, ne gagnant pas assez d'argent, ça je vois à peu près, était obligé de faire un numéro de travesti chez Michou. Il y avait un début d'intrigue. Le problème, c'est qu'il était marié avec la fille de la mafia, du chef de la mafia, et que là, après, ça partait vraiment en vrille. Mais le début du critique littéraire qui fait un numéro de travesti chez Michou, c'était assez fort. Il a quand même des idées. Et là, la Marlène, on la voit bien aussi. Il y a un casting avec sa sœur, la petite ado bougonne. On voit bien que c'est le César du premier espoir féminin dans 2 ans. Quoi. Enfin, oui, on sent tout ça. Quoi. Du coup, on sent trop le cinéma.
Marlène, c'est chez Gallimard. C'est le roman de Philippe Djian. Ma petite France, chez Albin Michel. Le livre que consacre le journaliste d'investigation Pierre Péan, l'auteur, je vous rappelle, d'Une jeunesse française sur Mitterrand, qu'il consacre à la bonne ville de Sablé-sur-Sarthe, bien avant que François Fillon n'en soit le maire, puisque c'est là, à Sablé-sur-Sarthe, que Pierre Péan est né. C'était en 1938. L'année suivante, comme vous avez compris, c'était la guerre. Et Ma petite France, c'est la chronique d'une petite ville de 6000 habitants sous l'occupation, vue depuis, on en revient aux cheveux d'Oxanen, vue depuis le salon de coiffure des parents de Pierre Péan, Alice et Eugène. Alors tout y est, évidemment, là c'est plus classique, les commerçants qui s'enrichissent au marché noir, les prostituées qui se vendent aux Allemands, la collaboration qui s'installe pendant que la résistance s'organise, le curé qui se maréchalise, et puis à la fin, les règlements de compte, l'épuration, l'exécution d'un certain Papillon, soupçonné d'être un gestapiste, mais sans doute agent britannique, sans oublier, on voit passer Pierre Reverdy et les moines de la voisine abbaye de Solesmes qui continuent de prier, sans oublier, alors c'est évoqué rapidement au début, c'est un personnage formidable, c'est le maire de Sablé au début de la guerre, qui était Raphaël Élisée, martiniquais, socialiste, et le premier maire métis de la métropole qui a été tué à Buchenwald en 1945. Il y a eu d'ailleurs un bon livre sur lui l'année dernière qui avait paru. Bref, il est fidèle à sa méthode, Péan, d'enquête, à ceci près que ça, évidemment, que ça rejoint son histoire personnelle. Arnaud ?
J'y allais vraiment à reculons parce que, après Mon village à l'heure allemande, après cette série française que je n'ai pas vue, Un village français qui semblait raconter exactement.
Tu pouvais très bien ne pas la voir.
Voilà, mais je l'ai pas vue. Mais enfin, j'ai le sentiment quand même que, effectivement, comme tu l'as dit d'ailleurs dans ton introduction, on connaît toutes ces histoires et on a le sentiment. Et en même temps, je trouve que ce qui est intéressant finalement dans ce livre, ce sont les Péans. C'est la mère et le père qui traversent la guerre. Finalement, en obéissant, lui il va au STO, enfin il a été appelé, il revient, ensuite il repart. D'ailleurs, juste avant la libération, je crois qu'il prend l'avant-dernier train du STO, mon souvenir est bon du livre, et que du coup, c'est intéressant de voir finalement ce noyau dur que sont les Péans, ce salon de coiffure, finalement qui vivent la guerre. Ils sont pas résistants, ils sont pas collabos. Il la vit.
D'où le titre, hein, Ma petite France.
Oui, et c'est ça qui est le plus intéressant. Après, il y a des personnages qui passent. Cette américaine qui vient s'occuper de l'abbaye de Solesmes. On la voit. L'idée aussi qu'il y a des gens du cinéma qui ont acheté une maison où il se passe des choses bizarres. On voit tout ce climat. Et l'idée aussi que, finalement, à cette époque-là, tout tenait au destin, au hasard, à la chance qui faisait que on était pris ou pas pris, arrêté ou pas arrêté. On sent bien avec parfois des moments de la banalité du tragique finalement. Voilà, des gens qui meurent, qui sont exécutés parce qu'ils ont été dénoncés dans une espèce d'atroce banalité. Mais en même temps, tout ça, je veux dire, on l'a déjà lu, on le sait. Le fait bien. Il le fait d'ailleurs à la manière d'une série télévisée avec un montage très cut sur des personnages et ça fonctionne. Bon, voilà.
Et puis il faut dire que ce portrait de Sablé-sur-Sarthe aujourd'hui, c'est vrai, ça, on ne le lit pas sans avoir parfois des arrière-pensées. Olivia ?
Tout est bien, mais c'est pas très bien. Je sais pas comment dire. C'est très intéressant, effectivement, cette chronique. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir comment finalement la vie continue. Comment ce village de 5000 habitants va absorber.
C'est plutôt une 2500, petite ville, hein.
Oui, une petite ville, pardon, mais 5000 habitants, comment ils vont absorber 2500 réfugiés, ce qui est assez étonnant. C'est fait de manière très impressionniste, ce qui est à la fois une bonne idée et en même temps un piège, je trouve. Parce que à peine tu t'attaches un tout petit peu aux gens ou alors tu es révolté, pouf, ils disparaissent.
Parce que ce sont des courts chapitres.
C'est des courts chapitres. Donc, je trouve que ça manque un peu de fièvre ou de palpitation ou d'engagement. Moi, je pensais qu'il se servirait plus de lui, petit garçon.
Mais il était trop jeune, il a aucun souvenir,
oui.
En fait.
Alors, il raconte comment il reçoit un cheval de bois fabriqué par son père à Noël ou comment il apprend à lire, mais... Je trouve que, sans doute, il est trop petit pour être acteur de ce qu'il raconte. Et du coup, bon, alors parfois on est absolument révolté. Il y a quand même toujours un truc dingue, c'est les dénonciations et comment une espèce d'horrible bonne femme, dès qu'elle voit un truc, elle le dénonce et puis elle s'en sort pas si mal.
Mais ce qui est fou, c'est qu'il a voulu même, pour une histoire personnelle, écrire selon ses méthodes habituelles d'enquêteur, alors qu'il aurait pu en profiter pour être, sans être Modiano, mais être un peu plus écrivain et un peu moins enquêteur.
La déception, c'est que j'attendais un livre plus personnel, voilà. Donc il y a un livre effectivement classique, bien écrit, bien enquêté, il n'y a rien à redire là-dedans, mais je trouve que ça manque de chair.
Nelly.
Oui, bah, en effet, je pense qu'il y a tout sauf l'écriture, et c'est quand même un problème, étant donné qu'on connaît déjà un peu tout ça. Alors, on connaissait pas l'histoire de Sablé exactement, mais c'est comme un mini laboratoire de tout ce qui s'est passé dans la France occupée. Donc, on a déjà vu ça dans des films, dans des téléfilms, dans des livres, dans des essais. Donc là, il fallait autre chose. Il fallait un supplément d'âme. Il fallait savoir écrire autre chose que ça. Et en plus, je trouve peut-être qu'il a eu du mal à écrire quelque chose qui le touche finalement, parce que ça touche son enfance. Et on a l'impression qu'il va vite, non ? Vous n'avez pas l'impression qu'il expédie un peu les histoires ?
Mais ça, je crois que c'est dû à la brièveté des...
Oui, le livre méritait davantage, c'est quand même un pavé aussi, donc c'est pas comme s'il avait manqué de place. Je trouve qu'il a pas peut-être su faire les bons... Enfin, il manque quand même pour un sujet qu'on connaît, ou peut-être qu'il aurait dû écrire ce livre il y a 30 ou 40 ans.
Michel ?
Bah, je suis un peu comme Arnaud, j'y suis allé un peu à reculons. Ce qui est curieux, c'est que le conte y est, quand tu as achevé la lecture de ce livre.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que le travail a été fait, le bon grain, l'ivraie sont là. Il y a même le point de jonction où le bon grain fonctionne comme de l'ivraie et où le salaud peut faire des choses très bien et le type bien faire des choses dégueulasses. Donc, c'est en ce sens-là, je dis, le conte y est. Alors, effectivement, il n'y a pas l'écrivain, je pense par exemple au journal de Léon Werth, extraordinaire, qu'il a tenu dans un petit village auvergnat pendant la guerre.
Ça, si tu ouvres la littérature, tu en as...
Oui, non, mais j'ai pensé à ce livre de Werth en lisant le livre de Péan. Mais j'ai pas envie de... Je trouve quand même que le travail est bien fait. Alors, cette méthode un peu de millefeuille qui fait qu'on passe d'un personnage à l'autre comme ça... Oui, bien sûr, c'est frustrant. On pourrait avoir envie de quelque chose de plus romanesque, enfin de plus enveloppant. Mais en définitive, moi, je trouve que c'est quand même un sacré bon boulot de journaliste. Voilà, il prétend pas plus, mais le compte y est.
Ma petite France, c'est chez Albin Michel et c'est signé Pierre Péan. Et on termine avec le volumineux journal de Mathieu Gallet. Le critique littéraire, dramatique, de l'Express, des nouvelles littéraires et du Masque et la Plume, disparu en 1986, jeune, il avait 52 ans, de la maladie de Charcot, et à part un recueil de nouvelles qui s'appelait « Les vitamines du vinaigre » et des entretiens avec Marguerite Yourcenar, Gallet n'avait rien publié de son vivant, mais il écrivait ce journal, je le disais, volumineux, 1953-1986, qui est apparu un an après sa mort et qui est aujourd'hui réédité dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, mais il l'est dans sa version intégrale, car l'éditeur de la première version, qui était Grasset, l'avait expurgé de passages, d'une part sur ses frasques homosexuelles, mais aussi sur pas mal de personnages influents de la République des Lettres, qui sont donc tous ces passages aujourd'hui rétablis. Résultat, évidemment, on va pas ici les résumer, c'est 1000 pages, hein. C'est très féroce sur la vie littéraire et théâtrale, dont il était, il faut quand même le rappeler, aussi un acteur. Hein. Ce n'est pas qu'un spectateur de cette vie-là. Il était membre de différents jurys, il avait une vraie fonction. Et il parle évidemment, notamment, beaucoup, beaucoup, de la corruption des prix littéraires, surtout le Goncourt. Alors, ça revient à quasiment toutes les 3-4 pages. Et puis du milieu littéraire, ses petits arrangements, ses grandes vanités, avec en plus un goût prononcé pour la formule qui fait mouche et qui parfois fait mal. Et Quand ça avait paru, ça je m'en souviens, la première édition, ça avait fait un boucan dans Paris énorme. Aujourd'hui, encore une fois, c'est cette édition préfacée par Jean-Luc Barré qui est intégrale. Michel.
Alors, Michel. J'appréhendais. J'avais gardé un excellent souvenir de ma première lecture et j'avais très peur d'être déçu et de tomber sur un livre plein de potins littéraires dont j'ai rien à foutre. En fait, non. En fait, c'est extraordinaire.
Il y a toujours des potins, quand
même. Les potins sont là, mais l'idiome fondamental qui enveloppe tout ça, à savoir la littérature, est là. C'est le micro-climat ambiant, c'est l'espace où se déploie le génie commentateur, je ne sais pas comment dire, de ce Mathieu Gallet, que je n'ai malheureusement jamais rencontré, j'aurais beaucoup aimé, et qui m'a donné le sentiment... Mais que c'était très loin, quoi. On lit ces pages de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un téléphone, une télévision.
Non, t'exagères. Non, t'exagères.
Non, ça, mais ce que je veux dire simplement, peut-être qu'il avait la télévision et qu'il regardait la télé, mais on voit bien là quelqu'un qui a une relation avec la littérature qui s'est perdue. Aujourd'hui, on est plus près du journal des Goncourt que de la période où nous sommes aujourd'hui avec les tweets, etc. C'est incroyable de voir à quel point cet homme appartient encore au meilleur du 19e siècle littéraire. Je pensais au journal des Goncourt, on peut trouver d'autres exemples. Mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'héritier de ça. C'est loin. Il y a une sensation d'éloignement dans les 20 ans qui se sont écoulés entre la première... Je ne sais pas quand c'est paru, la 30
ans... C'était en 1987 pour le premier volume. Donc, un an après sa mort.
On a l'impression qu'on retourne... J'ai éprouvé une grande mélancolie à la lecture de ces pages qui sont d'une intelligence et d'une férocité, d'une sensibilité.
D'une férocité incroyable.
Quand il voit, par exemple, rien qu'un seul exemple, il assiste à la première séance d'En attendant Godot, de Beckett. C'est quand même étonnant de voir ce qu'il tire, d'avoir assisté à cette pièce. Il en tire un résumé d'une intelligence où il montre très bien que Beckett est effectivement devenu l'homme qui donne la vraie métaphore de l'époque. Et en même temps, il n'a pas peur de souligner aussi peut-être des choses qui pourraient devenir un peu lourdes. C'est vraiment...
Mais il faut savoir que, parce que moi je l'ai bien connu, au Masque et la Plume, comme d'ailleurs à l'Express ou aux Nouvelles Littéraires, c'était pas un critique méchant. Il est dans son journal, terriblement. Oui. Mais le critique n'était pas du tout aussi féroce qu'il l'est réellement quand tout d'un coup, le soir, il se met à son journal. Arnaud.
Mais c'est évident que, d'ailleurs, il le dit tout le temps, ça revient constamment dans le journal, on lui demande quand est-ce qu'il va écrire un livre, etc. Et qu'il a pleinement conscience, on le voit en lisant ce journal, qu'il a pleinement conscience que son œuvre, elle est là, elle est dans le journal. Il a une capacité à croquer les gens. Parfois en quelques mots, je sais qu'il y a un moment où il décrit Modiano en disant, on dirait la tour Eiffel, il le croise dans la rue. C'est juste, il y a une description comme ça en deux lignes de Modiano. Il y a un portrait de ce personnage quand même fabuleux, quoi qu'on en pense, de François-Marie Bagnier, qui est franchement étonnant. Le rapport entre les deux est absolument magnifique. Et alors, moi qui suis un fan intégral de Nathalie Sarraute, mais qui n'arrivait pas à l'imaginer, quoi. Soudainement, il retranscrit des conversations entières de Nathalie Sarraute, qui est quand même mais la langue de vipère absolue, mais d'une drôlerie extraordinaire. Et soudainement, on la voit, Nathalie Sarraute. Elle est là, elle vit devant nous. C'est tout à fait... Alors, ce qui est étrange, ce qui est très bien dans cette édition, c'est que les passages caviardés sont en italique.
Ils sont mis en valeur. Voilà.
Donc on les voit. Il y en a un avec toi d'ailleurs qui a sauté. On se dit, tiens, pourquoi a-t-il sauté? Et la question, ce que tu disais, c'est Grasset qui a édité, mais qui chez Grasset s'est occupé du manuscrit? Parce que si c'est Jacques Brenner, comme on l'avance assez souvent, c'est étonnant parce que Jacques Brenner lui-même écrivait journal.
C'était à l'époque, mais je crois que d'ailleurs la sœur de Mathieu Gallet, Geneviève Gallet, l'avait dit chez Pivot à l'époque, ce sont surtout Yves Berger, qui était le directeur littéraire de Grasset, et François Nourricier, qui ont demandé à ce que disparaissent des passages où ils étaient
Parce que donc Jacques Brenner, qui est en même temps, parce qu'il est éditeur chez Grasset, Mathieu Gallet, en même temps Jacques Brenner, qui lui-même tenait son journal, où il racontait toutes les turpitudes de la vie littéraire, lui aussi, et notamment la manière dont le Goncourt était extrêmement truqué dans ces années-là.
Ce qu'on voit bien, parce que tu parlais de l'écrivain, c'est que toute la fin du journal... Quand tout d'un coup la maladie lui retire tout, c'est-à-dire sa voix, ses muscles, l'usage de son corps, là tout d'un coup il y a des pages.
Oui, mais ce qui est formidable dans ce moment-là, si l'on peut dire, c'est que la pratique du journal fait qu'il rencontre au jour le jour de son trépas et avec une espèce d'élégance absolument mais magnifique. Je veux dire, mourir comme ça, bravo quoi. Ouais.
Olivia.
Moi, je suis d'accord avec Michel. J'ai l'impression que c'est une autre époque que c'était, mais sous Jules César.
C'est vrai que les prix littéraires ne sont plus du tout.
Non, mais ce qu'il raconte, surtout dans la première moitié des livres, la première moitié du livre, il a un goût pour les vieillards, il le dit. Et d'ailleurs, il est obsédé lui-même.
Et les vieillards de droite. C'est Morand, Chardin, Jouandeau.
Impressionnant. Moi, en lisant le livre, j'avais l'impression que j'étais une jeune gauchiste, hein, parce que c'est que.
Ce qui n'est pas le cas.
Si. Ah,
si, Olivier.
Regardez-moi. C'est fascinant. Ce sont des vieillards qui se détestent, qui sont d'une méchanceté entre eux abyssale et qui n'arrêtent pas.
Très ancien, ça.
Mais il n'y a plus ça. Il n'y a plus les. Je suis désolée. Il n'arrête pas de se.
Il y a un peu l'équivalent. Hein. On a un peu les mêmes.
Quoi? Non. Ils n'arrêtent pas de se recevoir les uns les autres. Il y a des descriptions des intérieurs, moi, qui m'ont fascinée, avec des domestiques en livrée. C'est une autre époque. Et en même temps, c'est très 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 méchant. Nathalie Sarraute, moi, j'étais comme toi. Moi, pour moi, c'est un mythe qui s'effondre. Elle raconte, elle dit, si, parce qu'elle est quand même d'une vanité. Oui, elle dit, j'ai passé la journée à refaire le prière d'inséré que m'avait envoyé Gallimard. Je n'ai gardé que les compliments. Et un petit peu plus loin, elle dit, on me donne des photos de moi. Alors elle les rejette tous en disant, on me dit, oh, c'est tout vous et je vois une guenon. Remarque, c'est assez drôle. Hein. C'est le bûcher des vaniteux. Oui. C'est quand même les portraits de nourriciers, mais sont abominables.
Edmond Charleroux.
Edmond Charleroux, épouvantable. Mais tout ça ne serait que méchant si, au fond du livre, c'est une tragédie. Parce que c'est un homme, d'abord, qui a parfois des périodes de frénésie sexuelle qui le rendent extrêmement désespéré. Et parce que c'est un homme qui passe sa vie avec quelques génies, ou en tous les cas des gens qui écrivent tout le temps, et qui n'arrivent pas à écrire. Donc, il y a, je trouve, un fond absolument tragique. Et finalement, on s'attache à lui. On finit par le trouver attachant, alors que. Non, et puis avec un sens de la formule absolument éblouissant, quand même.
Mais il y a un amour de la littérature.
Moi, j'étais déçue pour tout ce qui est les magouilles du prix Goncourt, comme on ne les connaît pas, on s'en fout.
Je voudrais qu'on ait le temps de donner des conseils. Nelly.
Non, mais finalement, c'est pas qu'il n'arrive pas à écrire. Il a écrit un livre assez vite, très jeune, et assez vite, il s'est rendu compte qu'il n'arriverait pas à être aussi grand que les modèles qu'il admire, et il a préféré renoncer, ce que je trouve assez flamboyant. Je trouve ce soir, dans le programme, il n'y a pas assez d'écrivains qui ne renoncent pas. Je pense que Sophie Oksanen, par exemple, pourrait songer à renoncer.
Ah bah, décidément, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait.
Non, mais...
Vous auriez dû lire Murakami.
Je peux parler d'âge, je ne la connais pas. Mais je suis d'accord aussi avec Olivia et Michel. J'ai l'impression de lire quelque chose de proustien, en fait, de duchesses qui ont disparu quand il va
c'est
chez.
Un enfant de Proust,
il me semble que c'est chez Chardonne. Je commence tous ces fachos, là, je les confonds tous. Où il dit c'est un maître d'hôtel qui lui ouvre la porte, il faut qu'il attende dans l'antichambre.
Et quand il va chez Druon à l'académie,
en robe de chambre, il lui demande de l'appeler maître. Enfin, tout ça, c'est complètement. Enfin, c'est un pari englouti qui était en fait assez récent, quoi, qui date des années 60.
Moi, les mecs, ils viennent
60, 70, 80. N'est-ce pas, Michel? Et je trouve l'écriture. Alors là, vous disiez, Michel, tu disais, ah oui, mais Péan, il a fait du bon boulot, c'est un journaliste, il a fait un boulot de journaliste. Bon, je suis désolée. Mathieu Gallet, c'est un journaliste aussi. Et là, je vois que c'est quand même de la littérature.
C'est un portraitiste assez exceptionnel.
Mais c'est un portraitiste exceptionnel.
Exceptionnel.
Et d'une intelligence, parce que vous parlez tous de sa méchanceté, mais il n'est pas que méchant. Oui, je le trouve d'une intelligence et d'une finesse et d'une sensibilité pour capter chaque détail, chaque geste. Et très drôle. Enfin, il est quand même très, très drôle. Et j'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est une découverte. Je n'avais pas lu le précédent. Évidemment, on s'est tous, je pense, jetés sur les passages en italique pour voir ce qui se passait. C'est pas non plus... Bon, on est un peu au courant.
Non.
C'est pas
c'était
non
le bon
plus...
temps.
Bagné, d'ailleurs, il y a la légende qui s'effondre, puisque j'avais toujours pensé qu'il avait été... beaucoup aimé par Aragon, qui lui avait dit que son premier roman était formidable, et là on découvre que pas du tout, puisqu'il dit à sa bonne, pour Bagné, je ne suis pas là pendant 6 jours.
Le journal de Mathieu Gallet, rassemblé dans la collection Bouquins, et c'est chez Robert Laffont, un conseil pour finir cette émission. On va commencer avec Nelly.
Alors, ce sera le livre de Bernard Pivot, La mémoire n'en fait qu'à sa tête.
Dont nous reparlerons d'ailleurs au masque.
Chez Albin Michel, qui est... D'abord, j'adore son humilité. C'est-à-dire, quand il écrit, il ne prétend pas être un grand écrivain. Il ne prétend pas mettre 100% de littérature à l'intérieur d'un livre. Mais je trouve cette façon de prendre la littérature, c'est-à-dire toujours en lecteur d'abord.
Oui, parce qu'il faut dire que chaque chapitre vient du souvenir, enfin d'une phrase d'un autre écrivain.
Voilà, qui l'a lu.
Qui lui inspire
tout
d'un coup un souvenir.
Et qui lui renvoie à. C'est une espèce de flânerie dans sa mémoire, en effet, où il y a de tout. Alors, c'est un peu inégal, il y a des petites choses comme ça qui peuvent séduire certains, pas d'autres.
En ouverture, il y a un portrait chez Drouan. De Karen Blixen.
Oui, de Karen Blixen, voilà, j'allais en parler.
Qui est absolument époustouflant.
Qui est absolument formidable. Il revient sur le silence de Marguerite Duras pendant l'émission mythique d'Apostrophe. Enfin, j'ai trouvé ce livre vraiment d'un charme fou.
Je partage ton sentiment, mais on en reparlera au masque et la plume de ce livre de Bernard Pivot. Michel.
Alors moi, je vous propose un livre paru chez Arléa. D'Olivier Schaeffer, qui s'appelle Une tache d'encre. Alors, Olivier Schaeffer, on le connaît surtout parce qu'il a très bien traduit la poésie romantique allemande, Novalis, enfin des auteurs comme ça, donc un petit public, ok. Mais c'est un très très beau livre, c'est un voyage dans l'enfance. Alors, on est à Venise, on est au cinéma, on est dans Paris. C'est plein de charme aussi, comme disait Nelly pour le livre dont elle parlait. Et voilà, moi je le recommande.
Et c'est chez Arléa.
Chez Arléa, dans une collection qui s'appelle La Rencontre.
Mon conseil, Hemingway, Hamet, dernière de Gérard Guégan, c'est chez Gallimard, et c'est la dernière rencontre à la fois imaginaire, mais probable, aux États-Unis entre ces deux monstres sacrés, qui sont morts la même année, en 1961, qui est le romancier donc de La Due aux Armes, Nobel, et le patron du roman noir, qui avait traité Hemingway de vipère lubrique, tous les deux surveillés par le FBI de Edgar Hoover. C'est conçu comme une pièce de théâtre, et moi, je trouve ça absolument éblouissant. Hemingway, Hamet, dernière de Guégan, chez Gallimard. Le conseil d'Olivia.
Et moi, c'est un récit qui paraît chez Christian Bourgois, qui s'appelle Avalanche, d'une romancière australienne, Julia Lee, qui a fait un très très beau roman qui s'appelait Ailleurs, qui avait fait un premier film sélectionné à Cannes, qui s'appelait Sleeping Beauties, qui était sublime. Et là, elle raconte son parcours à partir de 38 ans pour essayer d'avoir un enfant. Et c'est un livre très brutal. Moi, j'aime bien quand la littérature s'empare de sujets qui ne sont pas littéraires. Et là, c'est comment
les
ça
cheveux,
se passe.
Les cheveux, par exemple.
Oui, mais oui, j'aime ça. Comment ça se passe quand tu rentres dans une clinique de procréation médicale assistée pour essayer d'avoir un enfant. Et alors, c'est très violent. Elle dit qu'en fait, on te regarde un peu comme si tu avais un cancer du poumon. Dernière de dire, bah, vous l'avez bien cherché, vous aviez qu'à faire des enfants quand vous étiez plus jeune. Et c'est très, très intéressant. Ça s'appelle Avalanche.
Le conseil d'Arnaud.
C'est un petit essai de 140 pages de l'anthropologue Marc Auger qui s'appelle L'avenir des terriens, c'est chez Albin Michel, et qui est sous-titré, ça dit tout, fin de la préhistoire de la société planétaire. Ce que raconte Marc Auger, qui est splendide, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle dimension, une nouvelle échelle de la société planétaire. On est sorti de notre préhistoire de ce point de vue-là. Et franchement, c'est illustré d'une manière, moi je trouve, je sais pas si vous suivez les aventures de Thomas Jesquet dans sa station orbitale, mais je trouve ça absolument magnifique et d'une certaine manière, Marc Auger dit, depuis qu'on a ce point de vue extérieur à la Terre, on est enfin devenu une société de terriens. Alors évidemment, ça ne se passe pas sans problème, explique-t-il, mais c'est très pertinent. Vous voyez quand même, on est face à ce nationalisme totalement figé, auquel on ne parle que de ça, cette espèce de repliement sur soi. Vous avez quelqu'un qui vous explique qu'enfin, on est passé à l'échelle planétaire dans nos têtes. Et je trouve ça remarquable.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du masque et la plume franceinter.fr. Merci Olivia de Lamberterie, Nelly Caprielian, Michel Crépu, Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Sacha Guitry et la technique, Cédric Chatelus, Philippe Thibault et Philippe Mercher. La réalisation était de Didier Lagarde et vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, c'est le jeudi 13 avril au studio Sacha Guitry à 20h pour une seule émission consacrée au cinéma. On parlera donc de films dimanche prochain et je vous dis à bientôt sur France Inter, évidemment.